Vous écoutez On lit pour vous.
Le combat d'une pédiatre pour les familles d'enfants polyhandicapés. Un texte de la Fédération des médecins spécialistes du Québec paru dans Le Devoir. Personne n'aime avoir à se démener pour coordonner une foule de rendez-vous et trouver toute l'aide médicale nécessaire. C'est ce qui a motivé la docteure Sarah Laure Gagné, pédiatre à l'hôpital de Montréal pour enfants, à mettre sur pied une équipe qui aide les familles à naviguer dans les complexités du système de santé. Nous nous entretenons avec elle sur la genèse et les réalisations du service de coordination et de navigation de complexité intermédiaire, CONCI. Le CONCI est un service d'accompagnement pour les parents de jeunes patients qui ont des problèmes de santé multiples, mais qui ne bénéficient pas de la prise en charge complète déjà offerte par le service des soins complexes de l'hôpital de Montréal pour enfants, réservé aux cas les plus lourds. Pour la docteure Sarah Longagné et sa mentor, la docteure Emma Patel, qui dirige la division de pédiatrie générale, il était illogique de demander aux familles de ces cas intermédiaires d'assurer les suivis auprès de 3, 4, 5 médecins spécialistes, voire davantage, et d'obtenir eux-mêmes l'accès aux différents services dont les enfants pourraient bénéficier. Un service comme le CONCI, ça change la donne pour les familles. Imaginez que vous avez un enfant polyhandicapé de 5 ans devant être suivi par un néphrologue, un neurologue, un chirurgien, un pédiatre, un ergothérapeute, un physiothérapeute et des infirmières. Tout ça, plusieurs fois par mois. Docteur Sarah Longagné, pédiatre à l'hôpital de Montréal pour enfants. Avant la création du CONCI, les services étaient offerts en silo pour les cas moyennement complexes, ce qui faisait en sorte que tout reposait sur les épaules des parents. C'est d'ailleurs ce qui nous a donné l'idée d'embaucher des coordonnateurs de soins qui pourraient répondre à leurs besoins, précise la docteure Longagné. Si l'utilité du CONCI relève de l'évidence, son financement n'a toutefois pas été chose facile. Nous avons fait la demande en 2015, poursuit-elle. Tout le monde trouvait que c'était une bonne idée, mais nous avons éprouvé de la difficulté à trouver des fonds. Le projet a fini par débloquer avec la pandémie. En raison du confinement, l'administration de l'hôpital, qui craignait de voir des vagues de patients polyhandicapés atterrir à l'urgence parce que leur famille n'avait pas réussi à obtenir de rendez-vous, a accepté d'assumer les services de deux personnes pour lancer le projet. C'est tout ce dont nous avions besoin pour mettre le pied dans la porte. Une fois le service lancé, on ne pouvait plus revenir en arrière. Aujourd'hui, notre équipe compte une vingtaine de personnes, sans parler des spécialistes externes. Une initiative qui bénéficie aux patients comme à tout le système de santé. Le financement du CONCI n'est pas octroyé par le ministère de la Santé, mais plutôt par des organismes philanthropiques. En ce moment, nous sommes soutenus par la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et par la Fondation Opération Enfant-Soleil, qui sont parvenus ensemble à amasser 4 millions de dollars, souligne Dr. Longagné. Notre financement est assuré jusqu'en 2029 seulement. Nous souhaitons que quelqu'un au sein du réseau de la santé comprenne que ce service est nécessaire et qu'il doit absolument être pris en charge. Pourtant, les retombées positives du CONCI sont claires et nettes. La coordination des soins permet aux patients d'avoir un accès plus facile à des pédiatres spécialisés, de planifier les rendez-vous en fonction de la disponibilité des parents et de simplifier la gestion globale des soins de santé. Le service peut aussi aider les familles à s'inscrire à des programmes et des subventions dont elles ne connaissaient peut-être même pas l'existence. Le tout dans le but d'alléger le fardeau qui pèse sur les familles. Comme l'explique la pédiatre, Les répercussions sur le système de santé sont tout aussi concluantes. L'hôpital, les cliniques externes et tout le reste du réseau sont gagnants quand le patient est mieux pris en charge. Ça évite le dédoublement des procédures et ça réduit le recours aux urgences lorsqu'un patient n'a pas pu obtenir un rendez-vous important. L'effet CONSI. De façon concrète, chaque enfant ou adolescent pris en charge par le CONSI se voit attribuer un coordonnateur de soins qui agit comme un point de contact direct avec la famille. Cette ressource pivot organise les visites médicales, les tests, les thérapies et les procédures médicales en accord avec les disponibilités et les préférences des parents. Des consultations sont également offertes avec les pédiatres, l'infirmière praticienne et les infirmières cliniciennes de la clinique CONSI. Un service comme le CONSI, ça change la donne pour les familles, affirme la docteure Longagné. Imaginez que vous avez un enfant polyhandicapé de 5 ans devant être suivi par un néphrologue, un neurologue, un chirurgien, un pédiatre, un ergothérapeute, un physiothérapeute et des infirmières, tout ça plusieurs fois par mois. Très vite, le système de santé devient comme la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix. Pour une simple prise de sang, par exemple, les parents doivent s'absenter du travail. Sans le CONSI, ils auraient pu apprendre quelques jours plus tard qu'un autre médecin spécialiste avait fait la demande d'un bilan sanguin différent, alors que tout ça aurait pu être fait en même temps. Il y a des parents qui sont sur le bord de la crise de nerfs, et notre service est là pour leur venir en aide. Un exemple concret de réussite. La docteure Longagné évoque le cas d'une jeune patiente atteinte d'un syndrome qui la prédispose à prendre rapidement du poids. Ailleurs au Canada, elle était suivie par une équipe multidisciplinaire qui comprenait, entre autres professionnels, un nutritionniste. À l'hôpital de Montréal pour enfants, les services étaient offerts, mais pas dans le contexte d'une équipe intégrée, puisque la patiente ne répondait pas à certains critères précis. Nous avons consulté des CLSC qui ne pouvaient la prendre en charge en raison de la complexité de son cas. Entre-temps, la jeune fille avait pris beaucoup de poids depuis son arrivée au Québec et elle n'arrivait plus à fonctionner normalement. Un de nos pédiatres a trouvé une clinique interdisciplinaire au privé et une de nos coordonnatrices a identifié une subvention pouvant s'appliquer à sa situation pour laquelle nous avons fait une demande. Résultat, la jeune patiente, enfin prise en charge, se porte de mieux en mieux. Les clés de la réussite. Les pédiatres et d'autres spécialistes dans des disciplines telles que la chirurgie, la neurologie et la pédiatrie sociale en communauté, de même que les infirmières, les coordonnatrices de soins et tout le personnel soignant de l'hôpital de Montréal pour enfants, notamment des ergothérapeutes et des physiothérapeutes, sont tous très impliqués dans cette initiative. En fait, ils en font nettement plus que ce qui était attendu à l'origine, conclut-elle. Il est vrai que, depuis sa création, le succès du CONSI repose sur les principes de la compassion, de la collaboration et de la concertation. Sans oublier l'implication directe de dizaines de médecins spécialistes, toujours à l'écoute des besoins de leurs jeunes patients et de leurs familles, comme la docteure Longagné, qui s'investissent à fond dans l'amélioration des soins de santé au Québec. À propos de la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, FMSQ, défend et soutient les quelques 10 000 médecins œuvrant dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues au Québec. La FMSQ favorise aussi l'offre de soins et de services de haute qualité pour la population québécoise. C'était Le combat d'une pédiatre pour les familles d'enfants polyhandicapés, un texte de la Fédération des médecins spécialistes du Québec paru dans Le Devoir.
Véhicules électriques. Des bornes de recharge toujours difficiles d'accès pour les personnes en situation de handicap. Un texte d'Alexandre Quentin paru le 22 octobre 2024 dans TVA Nouvelles. Des bornes de recharge pour les voitures électriques restent difficilement accessibles pour des personnes en situation de handicap, malgré un engagement pris par Hydro-Québec il y a 5 ans. Un organisme et un utilisateur ont dénoncé la situation. Quand il s'est acheté une voiture électrique à la fin des années 2010, Christian Raté s'est facilité la vie. Le citoyen de cette île n'est plus obligé d'arrêter dans les stations-service puisqu'il peut remplir son véhicule directement à la maison. Il s'agit d'un gain de temps important pour celui qui se déplace en fauteuil roulant. Toutefois, les choses se compliquent quand il part en voyage. Depuis plus de 5 ans, il collectionne les exemples de bornes électriques difficilement accessibles. Les dalles de béton surélevées constituent souvent un obstacle, tout autant que les dispositifs de protection des bornes. En 2019, il avait dénoncé le problème sur les ondes de TVA et avait interpellé Hydro-Québec. La société d'État s'était engagée à mettre en place des mesures pour corriger le tir, tant pour la conception des bornes que pour leur installation. Si Christian Raté a constaté une amélioration de la situation, trop de nouvelles installations sont inadéquates et aucune norme ne semble suivie. Le contrôle qualité n'est pas là chez le circuit électrique pour s'assurer que les bonnes choses soient faites à toutes les étapes, dans le bon ordre, de la bonne façon, constate-t-il. Ou les personnes qui inspectent ne sont pas sensibilisées. Ça n'a pas de bon sens. L'organisme Moelle épinière et motricité Québec a récemment demandé à Hydro-Québec d'intensifier ses efforts pour améliorer l'accessibilité des bornes de recharge. Son président, Walter Zelaya, considère que la société d'État doit être un exemple pour tous ses partenaires chargés d'installer ces appareils. Pour une personne à mobilité réduite, quand il trouve une borne qui n'est pas accessible, c'est difficile d'aller lui dire « Écoute, le problème, c'est finalement que la municipalité ou le partenaire n'a pas fait son travail. Ce qu'il veut, c'est que ce soit accessible », a-t-il indiqué. L'accessibilité des bornes de recharge deviendra un enjeu de plus en plus important au cours des prochaines années. Avec une population vieillissante, le nombre de personnes à mobilité réduite possédant des véhicules électriques risque de bondir rapidement. Hydro-Québec n'est pas la seule à être interpellée par Christian Raté, qui s'inquiète aussi de la situation hors du Québec. Canadian Tire est en train d'installer plein de bornes au Canada qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant. Ça aussi, ça n'a pas de bon sens. J'en ai fait part à Electrify Canada et je n'ai aucune réponse de leur part, a-t-il déploré. C'était « Véhicules électriques, des bornes de recharge toujours difficiles d'accès pour les personnes en situation de handicap ». Un texte d'Alexandre Quentin paru le 22 octobre 2024 dans TVA Nouvelles.
Trois conseils de spécialistes pour protéger votre santé pendant la saison froide. Un texte de la rédaction paru le 21 octobre 2024 dans le magazine Châtelaine. L'air vivifiant de l'automne vous saisit tandis que vous dites adieu à la douce chaleur de l'été. Sans aucun doute, c'est le moment de vous armer contre l'arrivée des microbes hivernaux, responsables de méchants rhumes, grippes et autres COVID-19. Afin de vous aider à bien vous préparer, nous avons demandé à la docteure Lenora Saxinger, professeure en maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, de vous donner ses meilleurs conseils pour rester en bonne santé et conserver votre énergie tout au long de l'automne et de l'hiver. La vaccination, premier moyen de défense. La vaccination est un moyen efficace de prévenir les maladies graves telles que la COVID-19 et la grippe. Selon la docteure Saxinger, les vaccins réduisent considérablement le risque de tomber gravement malade et, par conséquent, d'être hospitalisé ou de souffrir de complications à long terme. Ils peuvent également diminuer le risque de transmettre le virus à d'autres personnes si l'on est infecté. Ils sont efficaces car elles entraînent le système immunitaire à reconnaître et à combattre les virus. Citation. Les études menées jusqu'à présent sur les nouvelles doses de rappel de vaccins pour la COVID-19 ont démontré que les personnes qui reçoivent des doses supplémentaires de vaccins sont moins susceptibles d'être hospitalisées à cause de la COVID, et ce, au-delà de la protection offerte par les doses précédentes, car les nouvelles versions du vaccin sont adaptées aux variantes actuelles du virus. Fin de citation, explique la docteure Saxinger. Citation. De nombreuses études effectuées avant et pendant la période Omicron ont montré que les personnes non vaccinées couraient 10 à 20 fois plus de risques d'être hospitalisées à cause de la COVID. Ces études ont également démontré que les doses supplémentaires de vaccins renforçaient la protection. Cette protection est particulièrement importante pour les personnes âgées et pour celles qui présentent des problèmes de santé complexes. Fin de citation. La docteure Saxinger insiste sur l'importance particulière de vacciner en priorité les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que les gens immunodéprimés souffrant de problèmes de santé chroniques, comme les maladies cardiaques ou pulmonaires chroniques, ou encore le diabète. Selon une récente enquête du gouvernement canadien, les aînés ont davantage recours aux vaccins contre la COVID-19, 67 % que les adultes plus jeunes souffrant de maladies chroniques, 39 %. Dans les deux cas, le taux de vaccination contre la grippe en 2023 était plus élevé que celui de la vaccination contre la COVID-19. Or, le nombre d'hospitalisations et décès liés à la COVID-19 reste considérablement plus élevé que dans le cas de la grippe. Sachant qu'il y a un risque de développer une forme grave ou des symptômes à long terme de la COVID-19, cet écart dans la vaccination est préoccupant. La COVID-19 est une maladie qui semble s'être installée durablement. Il est donc important d'inscrire la mise à jour de votre vaccination contre la COVID à votre calendrier pour l'automne-hiver, au même titre que celle contre la grippe. En recevant les deux vaccins, qui peuvent être administrés en même temps, vous vous protégerez donc vous-même, ainsi que vous protégerez votre entourage, en particulier les personnes vulnérables qui courent des risques plus élevés. Renforcer les défenses de l'organisme. Si la vaccination est cruciale, il est également important de renforcer votre système immunitaire en adoptant certaines règles d'hygiène, notamment le lavage des mains et l'hygiène respiratoire. Citation. Même avant la pandémie, de nombreuses études indiquaient qu'une désinfection et un lavage fréquent des mains pouvaient réduire de 50 % le risque d'infection virale. Fin de citation, cite la docteure Saxinger. La chercheuse nomme aussi d'autres mesures de protection personnelle, telles que le port du masque dans les lieux à haut risque ou à forte fréquentation, comme les épiceries, les cabinets médicaux ou les transports en commun. Par ailleurs, les personnes qui sont malades doivent éviter de se rendre au travail ou à l'école pendant les 5 premiers jours d'une infection respiratoire afin de réduire le risque de transmission à d'autres personnes. Outre ces mesures, la docteure Saxinger recommande à la population canadienne de prendre systématiquement des suppléments de vitamine D. Elle souligne de ce fait l'importance d'avoir un taux de vitamine D suffisant pour optimiser la fonction immunitaire, en particulier pendant les mois d'hiver, lorsque l'exposition au soleil est limitée. De plus, elle évoque l'importance d'une bonne gestion du stress en citant une étude qui prouve que le stress chronique affaiblit les défenses immunitaires de l'organisme. Citation. Dans le monde actuel, il est difficile de combattre le stress, dit-elle, mais certaines mesures peuvent en faire baisser radicalement le niveau. Par exemple, éviter de lire des mauvaises nouvelles jusqu'à tard dans la nuit en déposant plus tôt son téléphone pour dormir suffisamment. Fin de citation. Se préparer à l'éventualité de la maladie. Il est toujours bon d'avoir sous la main quelques produits de première nécessité au cas où un membre de votre foyer ou vous-même tomberiez malade. Analgésiques en vente libre, ibuprofène par exemple, sirop contre la toux, décongestionnant, utilisé pendant 3 à 5 jours au maximum pour éviter une rhinite, et un thermomètre. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'en stocker des quantités excessives. C'était 3 conseils de spécialistes pour protéger votre santé pendant la saison froide. un texte de la rédaction paru le 21 octobre 2024 dans le magazine Châtelaine.
Douleur chronique, prendre les commandes. Un texte de Dr. Christine Groux paru le 20 octobre 2024 dans le Journal de Montréal. Au Canada, on estime qu'une personne sur cinq doit composer avec un problème de gestion de la douleur. Trop souvent incomprise ou méconnue, cette condition peut avoir d'importantes conséquences, et ce, dans les différentes sphères de la vie d'un individu. Si l'on connaît tous cette expérience désagréable, voire à certains moments intolérable qu'est la douleur, cela est particulièrement le cas des personnes vivant avec une douleur chronique. Celle-ci se distingue par une durée de plus de 6 mois, et ce, malgré le fait que les traitements jugés adéquats par les professionnels de la santé aient été administrés et complétés. Des impacts souvent nombreux et significatifs. La douleur chronique n'est pas à prendre à la légère. Elle peut en effet engendrer une multitude de répercussions, notamment sur les plans psychiques, social, professionnel, familial et relationnel. Sur le plan psychologique, cette condition peut être à l'origine de symptômes d'anxiété et de dépression. Chez les individus concernés, il n'est pas rare de voir apparaître des biais cognitifs, des pensées négatives ou autodépressantes, telles que « si je faisais plus d'efforts, je ne souffrirais pas autant » ou « si j'avais demandé de l'aide plus tôt, je n'en serais pas là ». La douleur chronique peut aussi entraîner la kinésophobie, c'est-à-dire une peur excessive de bouger ou de pratiquer des activités physiques. De plus, étant invisible, la douleur subjective qui est vécue par ces personnes peut s'avérer particulièrement difficile à expliquer ou à partager avec leur entourage. Malgré leurs bonnes intentions, les proches peuvent parfois ne pas saisir, voire nier l'ampleur de cette souffrance. De plus, sans vouloir minimiser la douleur chronique, elles peuvent mécomprendre ses effets sur le fonctionnement psychologique de ces personnes. De surcroît, certains patients peuvent se sentir incompris par certains professionnels de la santé qui ne sont pas suffisamment sensibilisés face à cette problématique. La douleur chronique peut aussi causer des difficultés fonctionnelles significatives. Par exemple, une personne vivant avec cette condition pourrait être contrainte de réduire sa charge de travail ou d'abandonner certains de ses loisirs et passions, pouvant ainsi être à l'origine de plusieurs deuils. Sur le plan social, la douleur chronique peut également contribuer à l'isolement, en plus d'engendrer une perte de rôle. À titre d'exemple, une personne hyper-performante pourrait voir ses heures de travail réduites, tandis qu'une personne proche aidante pourrait se voir subitement confinée dans le rôle de l'aider. Pour mieux prévenir le cercle vicieux de la douleur, la douleur chronique est un lieu de féconde rencontre de l'inter-influence du corps sur l'esprit et vice-versa. En effet, certains de ces symptômes, par exemple l'anxiété ou la dépression, peuvent à leur tour exacerber la perception de la douleur. Cette douleur plus marquée peut à son tour entraîner encore plus d'anxiété ou de dépression, et ainsi de suite, créant de ce fait un cercle vicieux. Parmi d'autres exemples, mentionnons le manque de sommeil, les habitudes de consommation, la qualité des relations, le manque d'activité qui peuvent aussi accentuer la douleur de cette façon, ou servir de facteur de protection. Ainsi, afin d'éviter que la douleur n'augmente encore davantage, il est important de miser sur les différents facteurs de protection, notamment en adoptant une saine hygiène de vie. Cela peut toutefois nécessiter d'importants changements dans le quotidien d'une personne. À titre d'exemple, une jeune adulte aux prises avec de la douleur chronique pourrait désormais devoir faire une sieste chaque jour en après-midi. Il est également crucial pour les personnes vivant avec cette condition d'entretenir des liens affectifs et sociaux et de poursuivre diverses activités, voire d'en découvrir de nouvelles, et ce, notamment pour continuer à cultiver leur estime de soi et limiter l'emprise de la douleur. celles-ci doivent également demeurer vigilantes face à l'autodépréciation et aux jugements sévères qu'elles pourraient avoir envers elles-mêmes. Par exemple, si une personne éprouve de la difficulté à se déplacer en raison de la douleur et craint le jugement des autres, il pourrait lui être utile de se poser la question suivante. Est-ce que je jugerais aussi sévèrement une personne qui serait dans une situation similaire? La douleur étant subjective, celle-ci peut aussi varier en fonction de nombreux facteurs. En fonction du contexte, du plaisir éprouvé lors de certaines activités, ou encore selon les pensées associées à la douleur, par exemple. En ce sens, il est essentiel de reconnaître et d'accepter que la douleur fluctuera dans le temps. Tout comme d'autres maladies, il y aura parfois des journées plus éprouvantes et parfois aussi de meilleures journées. Les traitements psychologiques de la douleur chronique. Bien qu'ils ne permettent pas d'éliminer la douleur, les traitements psychologiques peuvent aider la personne vivant avec cette problématique de plusieurs façons, notamment en lui apprenant à mieux gérer sa douleur, en plus d'améliorer sa qualité de vie et son fonctionnement. À titre d'exemple, un psychologue pourrait apprendre à cette personne diverses techniques de relaxation afin de diminuer son niveau d'anxiété et ainsi faire en sorte que la douleur ne soit pas davantage exacerbée par celle-ci. Il pourrait également lui enseigner la pleine conscience, contribuant ainsi à diminuer l'attention portée sur la douleur. Il pourrait de plus aider cette personne à changer sa perception de la douleur, l'encourageant à concevoir celle-ci autrement, comme une partie d'elle-même dont il faut prendre soin. Ce professionnel pourrait aussi l'aider à ne pas surinvestir sa douleur, à lui donner un sens et une place, sans lui donner toute la place. De plus, il peut également être utile de s'informer sur le sujet par l'entremise des sites fiables, tels que ceux du gouvernement ou de cliniques spécialisées en gestion de la douleur. Il est aussi possible de se joindre à des groupes de soutien afin de partager son vécu avec d'autres personnes vivant cette réalité. Mieux vivre avec la douleur chronique. En somme, si apprendre à vivre avec la douleur chronique est un chemin de croix, elle n'a pas à devenir un calvaire. Il est également primordial que nous soyons tous plus sensibles, mais aussi plus sensibilisés face à cette condition. Bien qu'elle soit invisible, la douleur chronique est pourtant bien réelle. Elle mérite d'être prise au sérieux, d'être mieux connue et reconnue de tous. C'était « Douleur chronique, prendre les commandes ». Un texte de Dr. Christine Groux paru le 20 octobre 2024 dans le Journal de Montréal.